Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 16 juin 1994.
Avec Constamment. il y a des sangriffis au mouvement. Et ça devient de plus en plus comme le bonhomme de neige. Il grossit, plus il roule, plus il grossit. Plus il roule, plus il grossit. Il devient énorme. Et c'est ce qui explique comment l'imaginaire devient énorme. On porte le monde. Et c'est souvent très douloureux. Parce que porter le monde, c'est pas drôle du tout. On a l'impression que toutes les misères de la Terre viennent sur nous. Et on n'arrive pas à se dépasser de ce poids terrible. Alors il faut comprendre que c'est le jugement d'existence qui à ce moment-là peut nous sauver de cela. Parce que l'autre, c'est pas moi. Je l'aime ou je le rejette. Suivant qu'il est bon pour moi, suivant qu'il me semble quelqu'un qui m'attaque. Et vous voyez, quand je suis pris par l'imaginaire c'est toujours et en premier lieu ce point de vue quantitatif. Il y a un lien très fort entre l'imagination et la quantité. Ce qu'on voyait ce matin, par exemple, au propos de la quantité, on verra ça demain. Et c'est très important de comprendre comment l'imaginaire est toujours dans le domaine de la quantité, alors que l'intelligence, c'est la qualité, c'est l'autre. Alors, le problème qui se pose, voyez, c'est de comprendre comment l'intelligence est capable de vérité. La qualité de l'intelligence, c'est la conscience et la vérité. Je suis conscient de connaître. Je suis conscient d'être au niveau de la vie de l'intelligence. L'autocritique. Que je ne reste pas dans l'imaginaire. J'ai conscience de ça. Mais il y en a qui n'y arrivent jamais, hein, qui restent tout le temps dans l'imaginaire. Ils n'arriveront pas à avoir conscience de ce que c'est que la vie de l'intelligence. C'est l'intelligence. Il faut le dépassement de l'imaginaire pour avoir conscience de ma vie intellectuelle. Si je ne dépasse pas l'imaginaire, je n'ai pas conscience de ma vie intellectuelle. Et je reste encombré d'imaginaire et esclave de l'image. Esclave de l'imaginaire. Vous voyez, c'est toute la tactique du démon, ça. Parce que quand on reste dans l'imaginaire, le démon est le roi d'imaginaire. Alors, il aime de nous voir rester dans l'imaginaire, parce qu'à ce moment-là, il fait de nous ce qu'il veut. Il nous attrape au tournant, comme il veut, absolument comme il veut. Tandis que le démon ne pénètre pas dans mon intelligence. Mon intelligence, touchant la réalité, touchant ce qui est extérieur à moi, et se l'assimilant, il ne pénètre pas. Non. Mon intelligence a cette auto-lucidité. Ayant cette auto-lucidité, mon intelligence est capable de saisir si elle est dans la vérité ou si elle demeure dans l'imaginaire. On découvre la vérité. Et la vérité, elle est dans le jugement. Mais la saisie de certaines déterminations n'est pas la vérité. La vérité, elle implique la différence de l'autre et de moi. Tu existes, j'existe. J'existe, tu existes. Tu existes de telle manière, j'existe de telle autre manière. On voit cette diversité. Et cette première diversité, elle est entre toi et moi. Et elle est parfaite dans l'amour d'amitié. La diversité est parfaite pour l'ami, parce qu'on le respecte. Alors qu'à l'égard d'un autre, il n'y a pas le même respect. Et donc, il n'y a pas le même sens de l'autre. Je crois, vous voyez, que c'est la connaissance affective qui me fait connaître en premier lieu l'autre. C'est la connaissance affective. La connaissance de la connaissance affective, je vais atteindre la connaissance spéculative. La connaissance affective et la connaissance artistique me donnent le plus de sens de l'autre. En premier lieu, par le point de vue de l'ami, et par le point de vue de l'œuvre. L'œuvre, ce n'est pas moi. C'est quelque chose qui est en dehors de moi. Quand vous vous identifiez à votre propre œuvre, vous restez dans l'imaginaire. Et vous n'avez aucun sens de la vérité. Tandis que lorsque vous arrivez à découvrir l'autre, qu'il s'agisse de l'œuvre qui est autre que moi, qu'il s'agisse de l'ami, vous pouvez vous poser la question de la vérité. Est-ce que ma connaissance est vraie? Et vous posez la question, qu'est-ce que c'est que la vérité? Alors, vous devez essayer d'y répondre. Et d'y répondre le plus, j'allais, le plus simplement possible. La vérité arrive très vite dans ma vie intellectuelle. Je dirais, plus l'intelligence est compliquée et plus elle est perdue dans les raisonnements, moins la vérité est présente. Et c'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on voit plus du tout la vérité. On est pris par une espèce de raisonnement à l'infini. Tout est possible. Il n'y a rien de plus fatigant. Tout est possible. Alors, tout est possible imaginaire, c'est très lié à l'imagination. Peuvent paraître. Il n'y a plus de vérité, là. Plus aucune vérité. La vérité ne peut apparaître qu'avec le jugement d'existence. C'est les jugements d'existence qui font la vérité. Puisque c'est par le jugement d'existence que je saisis l'autre comme tel, dans son altérité. Et que je vois que mon intelligence est capable de s'affronter à l'autre. Et de saisir quelque chose de l'autre qui est vrai. Et quand je suis justement dans cette expérience interne, mais interne au niveau de l'esprit, que je dis l'autre est, il est ceci, il est comme ça, et c'est la vérité. Et vous dites, et c'est la vérité. Il y a donc deux jugements successifs. Il y a le jugement qui saisit la réalité et qui est conforme à cette réalité. Et puis il y a le jugement qui porte sur la qualité de ce jugement et qui dit ce jugement est vrai. Alors là, vous voyez bien comment ma vie intellectuelle est parfaite dans le jugement. Pas dans la saisie première, mais dans le jugement. Et cette perfection se réalise, j'en ai conscience, lorsque j'atteins la vérité. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité d'un point de vue philosophique du vivant? Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la conformité de ce que je dis avec le réel, de ce que je dis, de ce que j'exprime, de ce que je conçois. Ce que je conçois est conforme au réel. Pierre est intelligent. Pierre a passé un examen avec succès. Donc il est intelligent. Vous voyez, là, il y a un raisonnement. Ce qui fait que c'est pas toujours vrai. Tandis que dire que Pierre a passé son examen avec succès, ça, c'est vrai, c'est un fait. Donc il est intelligent, pas toujours. Si celui qui lui fait passer l'examen est intelligent et qui déclare que son examen est intelligent, il est intelligent. Mais si celui qui lui fait passer l'examen est bête et dit qu'il est intelligent, c'est la bêtise qui confirme l'intelligence et donc ne confirme rien du tout. Puisque l'intelligence ne peut pas être confirmée par la bêtise. Donc si quelqu'un de bête fait passer un examen et qui déclare que cet examen est parfait et très intelligent, je ne conclus pas, donc il est intelligent. Ouais, comme c'est curieux. Donc, le point de vue de la vérité n'est pas l'activité première de l'intelligence. C'est une activité seconde qui naît l'intelligence dans ce qu'elle a saisi, dans ce qu'elle dit, en conformité avec le réel qu'elle vient de saisir. Est-ce qu'elle le saisit vraiment? Est-ce qu'elle le saisit bien en profondeur? Est-ce qu'elle le saisit de façon superficielle? Vérité superficielle. Est-ce que la vérité en profondeur, vérité réelle, profonde? Oui, mon intelligence est capable de mesurer tout ça. Et elle est capable aussi de dire, je dis ça parce qu'un autre me l'a dit et que je sais qu'il est compétent. Et je n'ai pas vérifié, moi. Alors à ce moment-là, je ne suis pas dans la vérité. Je suis... Ma vérité repose sur l'opinion d'un autre, et non pas sur la réalité. Alors c'est pas la vérité. C'est tout simplement une vérité pratique. Je me sers de tel homme très intelligent et très compétent dans cette matière. Je m'en sers pour aller plus vite. Mais je suis obligé de dire, je crois que ce qu'il dit est vrai en fonction de ce que m'a dit un tel qui lui est très fort. C'est très curieux, vous voyez, comment l'intelligence progresse. Et s'appuyer sur l'opinion des autres, c'est-à-dire être incapable de juger soi-même, ne me fait jamais saisir la vérité. Me fait répéter une opinion. C'est tout. Vous savez, des quantités de gens demeurent dans l'opinion. Ils répètent tout simplement ce que le professeur a dit. Vous avez le droit de faire ça aux examens. Et c'est le professeur qui doit être attentif à voir si ce que vous répétez est bien répété et intelligemment répété. Ou si c'est répété comme un perroquet. Il ne sait pas ce qu'il répète. Mais il répète. Il répète quelquefois beaucoup plus parfaitement que n'importe qui d'autre. Parce qu'il n'est que perroquet. Donc son sommet, son plafond, c'est de répéter. Tandis que le plafond normal de l'homme n'est pas seulement de répéter. Répéter, c'est très bien, mais c'est très scolaire. Il faut vivre ce qu'on connaît. Il faut le saisir. Et donc, à ce moment-là, on le saisit selon la perspective propre dans laquelle on se trouve. On le saisit peut-être, peut-être que ce qu'on dira sera moins adéquat, mais ce sera beaucoup plus vrai, parce que ça correspondra à notre connaissance réelle. Donc, je suis capable de confronter ce que je pense à la réalité. Je suis en train de réaliser. Je suis capable de graduer la qualité de ma connaissance. Je suis conforme à l'opinion de quelqu'un. Je suis conforme à l'expérience que j'ai de la réalité. Je suis conforme à une théorie qui a été émise de quelqu'un d'intelligent et reconnu pour tel. Et je gradue le degré de vérité. Et je vois que toute connaissance vraie repose sur une expérience et repose sur une découverte intellectuelle qui peut elle aussi être vraie en fonction de la première vérité. Parce que quand j'affirme l'opinion de quelqu'un, je suis quelquefois dans la vérité. Et quelquefois, je suis en erreur. Et je me camoufle en m'appuyant sur l'autre. C'est pour ça que Saint Thomas dit, et ça, du point de vue de la vie de l'intelligence, c'est très important. C'est pour ça que Saint Thomas dit que l'opinion des autres, l'autorité en philosophie est la dernière des raisons. Non, on doit pouvoir tout le temps revenir à l'expérience. Tout le reste, c'est une attente. L'opinion des autres, c'est une attente. Quand je lis un bouquin et que j'ai l'opinion des autres, c'est une attente. Quand je suis un cours, est-ce que c'est une opinion de dire le professeur a dit ça? Vous répétez. Mais répéter ce qu'on a entendu dans un cours, c'est être proche de la source. Alors quand on est proche de la source, on entre dans la perspective de celui qui nous enseignait. C'est dans ce sens-là qu'il y a une qualité plus grande d'écouter un cours que d'écouter une cassette. C'est curieux. On pourrait se demander au point de vue de vie. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Écoutez un coup, vous êtes en face de quelqu'un qui normalement a pensé avant vous. Le professeur normalement doit avoir pensé avant les étudiants. Et il communique sa pensée en acte. Et en communiquant sa pensée en acte, il éveille votre intelligence pour que vous-même, vous puissiez écouter et refaire l'expérience. Alors ça, on écoute parfaitement comme c'est comme ça. Et c'est la manière active de suivre un cours. Vous voyez? La manière passive de suivre un cours, c'est tout simplement d'écouter et on enregistre comme une cassette. Et si on a été suffisamment de mémoire, on pourra répéter tout après. On répétera. Tandis qu'au contraire, si on vit ce qui a été dit, en disant oui, c'est vrai, ça voilà, et on l'expérimente à ce moment-là, au terme du cours, on est dans la vérité. Si ce que le professeur a dit est la vérité. Vous voyez ? C'est pour ça que écouter un cours et le vivre, ce n'est pas répéter. C'est progresser, tout à fait différent. C'est actuer mon intelligence pour que mon intelligence aille plus loin. C'est progresser. Il y a un réalisme beaucoup plus grand d'écouter un cours que d'écouter sur cassette. Même s'il y a une projection qui montre celui qui parle, ça n'ajoute rien du tout ça. C'est l'ordre tout simplement imaginaire. Et c'est l'imagination qui vient. Et quelquefois, ça peut être même un obstacle, parce qu'on restera dans l'imaginaire. Tandis qu'au contraire, écouter sans voir l'image, ça permet d'être plus attentif uniquement à écouter. Mais comme ceux qui écoutent ordinairement sont des êtres qui ont beaucoup d'imagination, ils ont besoin de reposer leur imagination sur la vision. Mais ça, c'est une condescendance miséricordieuse. Tandis qu'au contraire, écoutez simplement en disant écoutez, fermez les yeux et écoutez. Et pensez ce que vous écoutez. Et critiquez-le. Alors, à ce moment-là, vous progressez. Votre vie d'intelligence progresse. Et c'est très important d'éduquer notre intelligence. Et comment nous pouvons l'éduquer? L'expérience et l'opinion d'un professeur, ou plus exactement, c'est pas l'opinion d'un professeur, c'est le cours de quelqu'un qui sait avant vous, et qui sait plus que vous, et qui vous transmet en acte ce qu'il connaît. À ce moment-là, votre intelligence s'actue et progresse. Elle part d'une non-connaissance, d'une ignorance vers une connaissance. Alors c'est pour ça que là, saint Augustin distingue le maître intérieur et le maître extérieur. Mais fait ça en théologien. En philosophe, puis-je dire qu'il y a un maître intérieur qui m'éclaire en même temps que je veux? Alors, ça dépend. Si j'ai découvert l'existence d'un Dieu créateur de mon âme spirituelle et donc de mon intelligence, je peux dire que Dieu, père de mon intelligence, accompagne tout le temps ma vie intellectuelle. Et donc porte mon progrès intellectuel comme père de mon intelligence. C'est ce que les néoplatoniciens avaient très bien compris. Et donc, déjà, eux, au point de vue purement philosophique, pouvaient affirmer qu'il y a une lumière intérieure qui accompagne toute ma vie intellectuelle. Alors, le problème qui se pose au point de vue de la vie de l'intelligence, puisque le vivant, c'est celui qui se meut. Alors, si vous rejetez, vous voyez dans quel sens je veux le dire, si vous attribuez à Dieu Père tout l'effort intellectuel que vous faites pour écouter, n'y a-t-il pas un danger d'un certain fidéisme? C'est Dieu qui pense en au-dessus de moi-même. Et si je connais, c'est Dieu qui me fait connaître. Ou est-ce que c'est mon intelligence? C'est quand même pas la même chose. Et alors c'est là où va se poser le problème de l'intellect agent. Expliquer le devenir et le progrès de ma vie intellectuelle. Comment je suis capable d'assimiler toujours plus, de connaître toujours plus, d'aller toujours plus loin. Où c'est le maître intérieur qui illumine Dieu? Où c'est mon intelligence qui, créée par Dieu, est créée de telle manière que je suis capable par moi-même de progresser, de devenir plus intelligent? Et pour expliquer ce progrès intérieur d'attention, je mets toute mon attention à écouter. Alors, pour expliquer ce progrès intérieur, on pose l'intellect actif. C'est Aristote qui a découvert ça. Et saint Thomas l'a repris. Et saint Thomas a défendu cette position. Vous voyez, le nous actif, le nous lumineux, c'est très curieux, ça. Alors, évidemment, ce nous actif vient de Dieu, vient du Père des intelligences. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est très curieux de voir ça, c'est pour expliquer le progrès vital, immanent de ma vie intellectuelle. Alors, je crois que là, on touche quelque chose d'extrêmement important. C'est de voir que plus le vivant est vivant, plus le développement de sa vie est immanent. La vie réclame l'immanence, à la différence du monde physique. Et ceci, vous voyez tout de suite, dès la connaissance sensible. On porte en soi notre connaissance sensible. Et cette connaissance sensible peut progresser. Et elle progresse de l'intérieur. Et c'est vrai pour l'intelligence. Plus je connais, plus je suis capable de connaître. Plus je suis capable de connaître dans la mesure où il y a quelque chose en moi qui s'actue. Alors, ce qu'il faut essayer, c'est de comprendre ce que devient dans ma vie intellectuelle la distinction de l'acte et de la puissance. Au plan métaphysique, on découvre la division de l'être en l'être, en acte, et l'être en puissance. Ceci, c'est applique l'être en acte et l'être en puissance. Ce qui est, c'est toujours, ça vaut bien, vous n'avez jamais touché ce qui est. Vous touchez ce qui est toujours dans le devenir. Donc, l'être saisi dans le devenir implique l'être en acte et l'être en puissance. Et l'être en acte est premier, et l'être en puissance est second. Et l'être en acte, c'est la perfection de l'être. C'est la fin de l'être. La fin de l'être, c'est l'être en acte. C'est une division que je fais dans mon analyse métaphysique. Dans l'analyse métaphysique, il y a deux grandes divisions. La saisie de la substance et de la qualité et de la relation. Et la saisie de l'être en acte et de l'être en puissance. L'être en acte, c'est le principe. Selon la fin de ce qui est. Comme la substance est le principe selon la forme de ce qui est. Selon la fin de ce qui est. C'est l'être en acte. L'être en acte, c'est donc l'intelligence qui saisit dans la réalité existante ce qui est premier, du côté de la finalité. C'est la grande découverte d'Aristote. Et Heidegger dit que c'est la grande découverte grecque et c'est le sommet de la découverte philosophique grecque. C'est Heidegger qui dit ça. C'est intéressant de voir ça. Et lui qui aime tellement Parménide reconnaît qu'Aristote a été plus loin. Parce qu'il a découvert l'être en acte. C'est le principe selon la fin de ce qui est en tant qu'il est. Du premier. Alors, lorsqu'il s'agit de l'esprit, de mon esprit, puisque l'esprit, c'est toujours mon esprit. Hein. Je n'habite pas dans votre esprit. C'est bien, bien malheureux, j'habite pas dans votre esprit. Tandis que j'habite dans mon esprit. C'est mon esprit. Mon esprit, je m'aperçois qu'il a diverses activités. Il saisit les choses. Ce qu'on dira facilement l'intuition. Il adhère aux choses. Jugement d'existence. Vérité. Il tourne autour. Il cherche des principes. Intuition. Il déduit. Tout ça, c'est la vie de l'intelligence. Et tout ça relève, nous le verrons, de la même puissance, de la même faculté qui est le nous. Le nous grec. Hein? L'esprit, l'intelligence. Très difficile à traduire le nous. Est-ce que c'est mince en latin ou est-ce que c'est intelligentsia? En latin, vous pourrez dire mince ou intelligentsia ou intelligence, intellectus, le nous, intelligence qui est source de ces différentes activités. Alors, l'intelligence pense, l'intelligence juge, l'intelligence raisonne, l'intelligence déduit. Toute l'intelligence. Comment se fait-il qu'il y a ce progrès? Pour pouvoir progresser, il faut être en puissance. Donc, mon nous est en puissance. Thank you. es capable de tout connaître, si tu es capable de tout connaître, ça prouve qu'il est radicalement en puissance à l'égard de tout. Et c'est pour ça qu'on dira tabula rasa. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui d'acte. Il est totalement en puissance, radicalement en puissance. Mais s'il est radicalement en puissance, comment va-t-il se voir? Puisque le vivant, c'est celui qui se meut. Alors, qu'est-ce qui actue l'intelligence? Oui, ce qui actue l'intelligence, c'est bien l'objet qui l'actue. Mais il faut un objet qui soit capable d'actuer un esprit. Or, toutes les réalités que je vois sont des réalités sensibles. Ces réalités sensibles, même l'image intérieure que je forme dans mon imagination, n'est pas au niveau de mon esprit. Alors, qu'est-ce qui va permettre de faire que l'objet s'est expérimenté à travers les réalités en devenir soit capable d'actuer l'intelligence? Voilà le gros problème de l'immanence de l'intelligence. Pour saisir comment l'intelligence possède en elle-même, tout en étant capable de tout connaître et donc d'être en puissance, capable de se déterminer, tout en restant dans l'objectivité de la détermination. Là, vous touchez. Alors, ce qui serait très intéressant, c'est de voir toutes les réponses qui ont été données à ce problème. Il y en a qui disent tout simplement que l'intelligence a des idées innées. Donc elle n'est pas tabula rasa. Vous êtes né avec le concept d'être. Et c'est pour ça que la première chose que vous avez dit à votre mère, Oh l'être. Rosmini dit ça. Il a entendu auprès d'un enfant, oh l'être, comment se fait-il que je puis parler de l'être à partir de l'expérience, des réalités sensibles et imaginatives? On verra ça la prochaine.